Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Jésus-Christ est-il votre roi? La parole de Dieu va nous aider à donner la bonne réponse à cette question, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. C'est vraiment important que personne ne mente les réponses que donne la Bible aux questions suivantes. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre? Pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas défendu à son procès? De quelle manière devons-nous venir au Seigneur? Si Jésus-Christ est roi, pourquoi est-il entré à Jérusalem sur le dos d'un ânon? Maintenant, voici une question qui nous est posée dans la leçon d'aujourd'hui. Jésus-Christ est-il notre prêtre, notre prophète, notre roi? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous donner un enseignement que personne ne devrait manquer. Les réponses qu'on va entendre ne pourront pas laisser qui que ce soit indifférent. Demandons à Dieu qu'il nous aide à comprendre avec tout notre cœur, afin que sa parole puisse nous transformer. Prions. Oh oui, Seigneur, que ta bonne parole puisse transformer nos vies aujourd'hui. Ouvre nos cœurs, notre intelligence, et fais-nous comprendre ce qu'on a besoin pour que tu règnes dans nos vies. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du chapitre 20 de l'Évangile selon Matthieu. Jusqu'ici, nous avons vu en examinant la parabole des ouvriers que Dieu récompense selon la fidélité, non le poste que nous occupons ou la longueur du service. De plus, le Seigneur Jésus a de nouveau annoncé sa mort et sa résurrection. Mais les disciples n'ont pas compris. Et cela est évident lorsque la mère de Jacques et de Jean demande à Jésus les deux premières places dans le royaume des cieux pour ses fils. Nous terminons l'étude de ce passage. Nous en sommes au verset 24 de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 20. Débutons notre lecture. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Pourquoi est-ce que les autres apôtres se sont indignés? Probablement qu'eux aussi convoitaient les premières places ou les positions les plus intéressantes dans le royaume des cieux. Versets 25 à 27. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent? Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Jésus-Christ présente un nouveau concept de la grandeur et du service, et ce concept devrait être très bien compris par tous ceux qui œuvrent dans l'Église du Seigneur. Mes amis, si nous désirons chanter pour le Seigneur, n'essayons pas de tasser les autres qui le font déjà. Si nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, n'essayons pas de supplanter les autres pasteurs. Si nous désirons un poste au conseil d'une église, que ce ne soit pas au déprimant d'un frère dans le Seigneur. Le Seigneur enseigne clairement que le chemin de la grandeur, c'est de le servir et de prendre la dernière place. Maintenant, Jésus et ses disciples s'approchent de Jérusalem. Et pour la cinquième fois, Jésus parle de sa mort qui sera pour bientôt. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Quel verset! Nous devrions tous le mémoriser. Vous devriez connaître la référence de ce verset afin de l'utiliser lorsque vous témoignez ou partagez votre foi avec d'autres. Avec ce verset, vous pouvez expliquer pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. quelle était la nature exacte de sa mission, car il y a beaucoup de confusion sur ce point. Christ a payé de sa vie afin que nous soyons pardonnés, régénérés et accueillis dans son royaume et au ciel. Nous échappons à la condamnation car Christ a pris sur lui notre condamnation. Verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Maintenant, Jésus et ses disciples entreprennent le trajet de Jéricho à Jérusalem. Permettez-moi une remarque en passant. Certains chrétiens pensent que parce que Jésus ne s'est jamais défendu à son procès, il ne s'est jamais défendu pendant son ministère. Ils pensent que nous devrions suivre l'exemple de Christ et ne jamais nous défendre. Cependant, à d'autres occasions, Jésus-Christ s'est défendu. Par contre, lorsqu'il est allé à Jérusalem mourir sur la croix, Christ ne s'est pas défendu, parce qu'il mourait à notre place et que nous sommes coupables. Nous ne pouvons rien dire qui excuse notre péché. Nous n'avons aucune défense à offrir. C'est pour cette raison que Jésus-Christ ne s'est pas défendu devant le Sanhédrin et Pilate. Il portait mes péchés et les vôtres à cette occasion. Versets 30 et 31. Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Notez qu'ils ont utilisé le bon titre en s'adressant à Jésus, « Seigneur, fils de David !» Ces hommes reconnaissent la royauté de Christ. La femme, syrophénicienne, avait appelé Jésus « fils de David », mais elle n'avait pas de droit en Israël. Ces deux hommes, par contre, réclament les promesses de Dieu à son peuple. Versets 32 et 33. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Le problème de ces hommes était visible. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus leur a-t-il demandé ce qu'il voulait qu'ils fassent? Mes amis, lorsque vous venez au Seigneur, vous devez lui faire connaître vos besoins. Si vous venez à lui pour être sauvé, vous devez reconnaître que vous êtes un pécheur et lui demander son salut. Sinon, vous ne serez pas sauvé. C'est le scandale de la croix. Tous aimeraient venir à la croix s'ils pouvaient apporter le parfum de leurs bonnes œuvres et de leur justice propre. Mais, mes amis, il n'y a rien de bon en nous que nous puissions offrir à Dieu. Nous ne pouvons pas davantage parfumer notre caractère avec de la psychologie et de l'éducation. C'est comme si nous voulions parfumer un tas de fumier derrière une grange avec du Chanel numéro 5 ou du Polo Ralph Lauren. Il faut venir à Christ comme un pécheur perdu et le recevoir comme sauveur. Les deux aveugles sont venus à Christ et ils lui ont présenté leurs besoins. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Le Seigneur les a guéris, et ils le suivirent. Rappelez-vous qu'il est en route afin de mourir à la croix. Maintenant nous passons au chapitre 21. Nous avions l'impression que la progression dans le ministère de Jésus-Christ s'était arrêtée alors que nous avons vu plusieurs paraboles. Mais maintenant, nous retrouvons cette progression alors que Jésus-Christ se dirige vers Jérusalem pour mourir à la croix. Il va entrer à Jérusalem en se présentant comme étant leur roi. Il va nettoyer le temple une deuxième fois, ce qui aurait été une très grande présomption s'il n'avait pas été celui qu'il affirmait être. Il maudit un figuier, geste symbolique pour expliquer ce qui vient. il fait de nouveau face à l'opposition de l'élite religieuse et il les accuse de complot pour le tuer. Jésus parle de façon décisive et délibérée. Il amène les Juifs à poser le geste fatal au moment choisi par lui. Christ contrôle entièrement la situation. Il manifeste sa royauté en s'approchant de la croix. Débutons notre lecture, chers amis, du 21e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, versets 1 à 3. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Je ne pense pas que cet incident soit miraculeux. Rien ne prouve qu'il le soit même, si plusieurs y voient un miracle. Je pense que nous voyons une situation normale et naturelle. Jésus avait probablement fait des arrangements au préalable afin que l'ânesse et l'ânon soient à sa disposition lorsqu'il arriverait. L'arrangement aurait pu avoir été fait lors d'une visite précédente ou par un émissaire. Il devait y avoir une entente avec le propriétaire des animaux et celui-ci devait savoir que des disciples viendraient prendre les ânes. Versets 4 et 5. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ici, Matthieu cite le prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur une âne, le petit d'une ânesse. Notez qu'il y a certaines omissions dans la citation de Matthieu. Nous remarquons cela en comparant attentivement les deux versets. La phrase « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion » est omise. Pourquoi? Le Seigneur n'arrive pas à Jérusalem pour des réjouissances. Cela se fera à sa deuxième venue. Une autre phrase est omise. Il est juste et victorieux. C'est à sa deuxième venue que Christ triomphera. Nous devons conclure que la véritable entrée triomphale se fera à la deuxième venue de Jésus-Christ. Certains affirment que Jésus manifestait son humilité en arrivant monté sur un ânon. Rien n'est plus loin de la vérité. Les rois se déplaçaient à dos d'âne. C'est l'équivalent d'arriver en Rolls-Royce de nos jours. L'âne symbolisait la paix, alors que le cheval symbolisait la guerre. En effet, le cheval était un animal de guerre. En pénétrant dans Jérusalem monté sur un ânon, Jésus-Christ se présentait comme roi. Malgré tout cela, le prophète nous dit que Jésus était humble. C'est un détail important. Poursuivons notre lecture, les versets 6 à 11. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, au fils de David !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»« Hosanna, dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée !» Le Seigneur Jésus oblige la ville de Jérusalem à réfléchir à qui il est une dernière fois. Il entre comme un roi, et ceux qui l'accompagnent le reconnaissent comme un roi. la ville a une nouvelle occasion de l'accepter ou de le rejeter. Versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Jésus-Christ ne mâche pas ces mots. Maintenant, examinons quelques détails au sujet de cette entrée que certains qualifient de triomphale. Premièrement, je ne pense pas que cette entrée fut triomphale dans le sens normal du terme. Nous avons vu que seulement certaines portions de la prophétie de Zacharie furent accomplies. Jésus-Christ est venu à Jérusalem afin de devenir notre Sauveur. Il se présentait publiquement une dernière fois au peuple. Si l'on compare les textes des Évangiles, nous en arrivons à la conclusion qu'il n'a pas pénétré Jérusalem une fois, mais trois fois pendant trois jours consécutifs. La première fois, il est venu en tant que prêtre, le jour du sabbat, qui correspond à notre samedi. Ce jour-là, il n'y avait pas de marchands et de changeurs dans le temple. Jésus a fait une petite tournée et il est reparti. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Citation de Marc, chapitre 11, verset 11. Le deuxième jour, qui correspond au dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Les vendeurs et les changeurs étaient au temple et il les chassa. Ce jour-là, il s'est présenté en roi. Le deuxième jour de la semaine, qui correspond au lundi, il fit sa troisième visite. Il a pleuré sur Jérusalem. C'est ce que nous lisons dans Luc, chapitre 19, versets 41 à 48. C'est à titre de prophète qu'il est venu. Lorsque l'on compare les récits de Matthieu, Marc et Luc, nous voyons qu'il parle de trois différentes visites. Jésus-Christ a pénétré Jérusalem à trois occasions pendant trois jours consécutifs. Il s'est présenté comme prêtre, roi et prophète. Chaque soir, il retournait à Béthanie. Ce n'est que le jour de son arrestation qu'il est demeuré en ville pendant la nuit. Cette entrée dite triomphale s'est terminée à la croix. À sa deuxième venue, il sera triomphant. Voyez ce qu'a écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Citation d'Hébreux chapitre 9, verset 28. Dans Zacharie, dans le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 4, nous apprenons que lorsque Jésus-Christ reviendra, il se posera sur le mont des Oliviers. Il fera une entrée triomphale à Jérusalem. Présentement, je ne peux pas appeler ces entrées triomphales, car Jésus allait vers la croix afin de mourir pour nos péchés. Après le nettoyage du temple, plusieurs vinrent à Christ pour se faire guérir. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Notez de nouveau, de nombreuses personnes furent guéries. Versets 15 à 17. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna, ô fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, » leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ?»« Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Et les ayant laissés, manifeste son rejet de l'élite religieuse. Il sortit de la ville pour aller à Béthanie. Comme nous l'avons vu, le Seigneur n'a pas passé la nuit à Jérusalem avant son arrestation, Mais il revient à Jérusalem le lendemain. C'est l'entrée sur laquelle l'évangéliste Luc met l'accent, sa troisième et dernière entrée le lundi matin. Mes amis, Jésus-Christ est roi, prêtre et prophète. Est-il votre roi, votre prêtre et un prophète dont vous écoutez la voix? Nous observons beaucoup de souffrances autour de nous, et nous souffrons tous à divers degrés, de diverses façons. Tout cela est la conséquence du péché, de la rébellion de l'humanité contre Dieu. Nous voulons être notre propre Dieu. Nous voulons nous-mêmes décider la meilleure chose à faire, décider ce qui est bien et mal. Mais, comme nous avons des natures pécheresses, nous voyons et éprouvons quotidiennement les conséquences de notre rébellion contre Dieu. Dieu, dans son amour, sa grâce et son immense miséricorde, nous invite à revenir à lui. Le mal à l'âme dont nous souffrons est le résultat du péché, de notre séparation d'avec notre Créateur. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, et non seulement est-ce que Christ a pris sur lui notre châtiment, mais ses meurtrissures ont aussi pour but de nous guérir. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Citation du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 5. La mort de Christ ne nous permet pas seulement d'éviter l'enfer et d'entrer au ciel, elle permet à Christ de régner dans nos cœurs et de restaurer nos âmes. Et cela, c'est présentement qu'il le fait. Dieu désire que nous lui ouvrions la porte de notre cœur pour y faire un merveilleux travail de grâce. Voulez-vous accepter que Christ soit votre prêtre? Acceptez le don gratuit de la vie éternelle qu'il vous donne en effaçant vos péchés à la croix. Invitez-le à régner dans votre vie, afin qu'il restaure votre âme, et faites de Christ votre prophète personnel, en le laissant vous enseigner par sa parole. Mes amis, Dieu veut votre cœur. Écoutez et répondez à cette invitation solennelle du Christ, que nous retrouvons dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Laissez-le entrer, afin qu'il puisse accomplir parfaitement son œuvre en tant que prêtre, roi et prophète de votre vie. Oui, chers amis, Jésus est tout cela pour vous qui croyez, et peut le devenir pour les autres, à une condition, que vous placiez votre confiance en lui dès aujourd'hui. Ayez la soif d'un bébé qui réclame son biberon rempli de lait spirituel. Nourrissez-vous, c'est gratuit. Christ a tout payé. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 21 jusqu'au verset 18, ainsi que Matthieu chapitre 22, verset 14.
Merci beaucoup, Régent. Jésus-Christ est le roi des rois. Est-il ton roi? On a vu aujourd'hui que dans notre nature pécheresse, on cherche à être son propre Dieu. On veut décider nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Ça fait notre affaire de penser comme ça. Mais ça nous éloigne de Dieu aussi. Puis on se demande ensuite pourquoi ça va si mal dans notre vie. On oublie que Dieu aime le pécheur, mais qu'il déteste le péché. C'est pourquoi le péché met un abîme entre Dieu et nous. Mais comment revenir à Dieu? On n'a qu'à ouvrir la porte quand il frappe. Aujourd'hui même, Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix, et si tu ouvres la porte de ton cœur, il a promis qu'il entrerait chez toi, qu'il souperait avec toi et toi avec lui. T'aimerais pas ça avoir une telle intimité avec Jésus que tu pourrais souper avec lui? Jésus est mort à la croix pour toi. Il a pris ton châtiment, le châtiment que tu méritais, comme si lui-même était un grand pécheur. Bien des fois, les pécheurs ont essayé de mettre la main sur lui pour le faire mourir, mais son heure n'était pas venue. Mais quand son heure est venue, il s'est laissé arrêter. Il s'est laissé flageller, couronné d'épines, craché au visage, battre de verges, pour enfin se laisser crucifier sur la croix et mourir pour toi, pour moi. Il veut non seulement t'éviter d'aller en enfer, ce que nous méritons tous. Il veut non seulement que tu ailles au ciel pour l'éternité, il veut être ton roi. Il veut régner dans ton cœur, maintenant puis éternellement. Accepte Jésus comme ton sauveur. Accepte-le comme ton Seigneur, c'est-à-dire comme ton maître. Accepte-le comme ton roi. Laisse-le régner dans toute ta vie. Donne-lui tout ton cœur. Tu ne le regretteras jamais. Le Seigneur est ton créateur, puis il t'aime parfaitement. Il veut te donner la vie éternelle, en ce moment même. Et même ici-bas, il veut te donner une vie abondante. Il veut donner un sens à ta vie. Laisse Jésus régner, régner sur ton cœur. Demande-lui de te pardonner, de te donner la vie éternelle. Ouvre la porte, laisse-le entrer. Imagine le roi des rois qui est doux et humble de cœur. Ça ressemble pas au roi de la terre, ça. Les rois aiment dominer. La nature pécheresse de l'homme veut qu'il domine sur les autres. Mais Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est doux et humble de cœur. C'est pas un tyran. Il force personne à faire quoi que ce soit. Il dit même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il dit pas, tu dois, je te force à me suivre. Il dit, si tu veux venir après moi. Est-ce que tu veux venir après le Seigneur Jésus? Jésus, c'est non seulement le roi des rois, mais c'est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis.
Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventure dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi. Et plus tard, en soirée, à une présentation de musique gospel, animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner d'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.